tout de suite Very Good Trip avec vous, Mischka Assayas, bonsoir.
Bonsoir Hugo Charpentier, ben vous êtes de retour d'ici une heure, enfin j'espère, hein, parce que ce soir on va réviser nos classiques, mais sans radoter pour autant, je l'espère aussi, parce qu'on va apprendre des trucs inattendus.
Okay, man.
Bon, pour une écrasante majorité d'entre vous, ce ne sera pas une révélation si j'annonce que vous venez d'entendre Get Back, interprété évidemment par les Beatles en 1969, une version de Travail, un petit peu avec un peu de déconnade, qu'on n'avait encore jamais entendue, j'y reviendrai. Les Beatles, oui, encore eux, s'exclameront peut-être quelques-uns, beaucoup, je l'ignore, hein, un demi-siècle après leur disparition, mais on n'aura donc jamais fini avec eux. Est-ce que les vieux boomers vont un jour nous lâcher avec leur nostalgie cuite et recuite? Bon, enfin, c'est à nuancer, parce que parmi les plus jeunes, et j'en connais, il y en a pas mal tout de même, qui continuent à découvrir émerveillés la vieille histoire des Beatles, une histoire qu'ils n'ont pas connue, et que son éloignement a fini par transformer en une légende, voire en un conte pour enfants. J'ai consacré, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, un programme intégral à la jeune chanteuse la plus populaires au monde à l'heure où je vous parle, la californienne Billie Eilish, et je n'ai pas manqué d'y insérer la très belle reprise qu'elle a faite de la chanson Something, sans doute le sommet de George Harrison, alors qu'il faisait encore partie en 69, plus pour très longtemps, hein, des Beatles. Alors pourquoi revenir sur ce groupe ce soir ? Eh bien parce qu'un événement se prépare autour d'eux, sans doute le dernier auquel les deux survivants du groupe, Paul McCartney et Ringo Starr, seront associés. À la fin du mois prochain, on va pouvoir découvrir, ce sera sur la plateforme Disney, ce qu'on appelle une mini-série, c'est-à-dire 3x2 heures, intitulée Get Back, et dont on peut dire, sans exagérer, qu'elle apporte des révélations. Alors de quoi s'agit-il au juste ? Eh bien, si vous connaissez parfaitement l'histoire des Beatles, vous savez certainement qu'il y a un demi-siècle, en 1970, est sorti au cinéma un documentaire intitulé « Let it be ». Les jeunes et très jeunes spectateurs d'alors, dont j'étais, ont pu y découvrir ébahi le groupe donnant un concert impromptu sur le toit d'un immeuble londonien. À la fin du film, tout le monde le sait, on voyait cette scène improbable, des passants ahuris, le nez en l'air, se demandant ce qui se passe là-haut, et la police ameutée finissant par intervenir pour mettre fin au tapage d'urne, parce que c'était à l'heure du déjeuner. Alors pourquoi j'ai dit ébahi ? Bah oui, parce qu'il était plus qu'improbable, en 1969, en janvier très exactement, année où cette scène a été tournée, de voir les Beatles donner un concert en plein air, d'ailleurs où que ce soit, d'ailleurs parce qu'en tant que groupe de scène, les Beatles s'étaient complètement effacés. Ils avaient donné leur ultime concert en août 1966, c'était au terme de leur tournée américaine, c'était à San Francisco, et après ça, ils avaient pris la décision irrévocable de ne plus jamais apparaître en public afin de mieux se consacrer à la réalisation de leur musique en studio. Et d'ailleurs, quand on avait demandé à George Harrison quelle était son idée du paradis, voici ce qu'il avait répondu, ne plus jamais partir en tournée. Alors voilà, ce documentaire d'il y a 50 ans, intitulé Let It Be, sorti donc tout juste après l'annonce de la fin du groupe, montrait assez tristement, enfin c'est le souvenir qu'on en a gardé, John, Paul, George et Ringo, maussades, se chamaillant, incapables de terminer l'album qu'ils avaient prévu de faire. Eh bien, 50 ans après, aujourd'hui, enfin 51 ans après, en 2021, on dispose de nouveaux éléments qui permettent non pas de réviser l'histoire, mais bien au contraire de la redresser, en somme. De dissiper les légendes, hein, légendes au mauvais sens du terme, il faudrait plutôt parler même de déformation. C'est plus dire qu'on découvrira dans la série Get Back un récit bien plus véridique que ce que l'on croyait connaître, et je vous expliquerai pourquoi. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. I've got a feeling I can't hide, no, no, oh no, 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 yeah, yeah. I've got a feeling. Oh, please believe me, I'd hate to miss the train. Everybody had a wet dream. Everybody saw the sun.
sunshine. Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Everybody had a good year. Everybody let the hair down. Everybody pulled the socks up.
Yeah.
Everybody put the foot down.
Oh yeah.
One After 909, une prise inédite de cette chanson enregistrée en janvier 1969 par les Beatles qui avaient exhumé de leurs propres archives, ce rock'n'roll naïf, une de leurs premières compositions originales remonte à leur tout début pour bien la rejouer près de 10 ans plus tard à l'identique. Il faut dire qu'à ce moment-là, un retour aux sources du rock'n'roll et du blues de Chicago, ou d'ailleurs était dans l'air en cette année, donc 1969. What After 909 a été enregistré donc à l'origine, comme pas mal d'autres, en janvier 69, en vue d'un projet inachevé des Beatles. Il faut que je vous raconte les rebondissements, parfois rocambolesques, qui ont conduit à la création de cette fameuse mini-série télévisée de 6 heures intitulée Get Back et riche, comme je vous le disais, en révélations. Alors d'abord des chiffres. Il existait, imaginez, 60 heures de film, je ne sais pas combien de bobines ça peut représenter, soit la totalité du matériau de base à partir duquel, il y a 50 ans, le cinéaste Michael Lindsay Hogg avait assemblé le film Let It Be. Elle dormait dans un entrepôt et si un projet d'exposition n'avait pas vu le jour il y a quelques années, eh bien personne n'aurait eu l'idée de les exhumer. C'est alors que les responsables du fonds des Beatles ont sollicité le cinéaste néo-zélandais Peter Jackson afin qu'il en supervise la restauration selon des procédés d'aujourd'hui. Peter Jackson, il est connu pour avoir filmé la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais pas seulement, il a également dirigé en 2018 la colorisation, le montage et le commentaire d'images d'archives de la Première Guerre mondiale. Le film en anglais portait pour titre They Shall Not Grow Old, en version française ça s'appelle Pour les soldats tombés. Donc Jackson est le premier à avoir visionné l'intégralité de ces 60 heures d'images montrant les Beatles au travail en janvier 69, les Beatles qu'on entendra d'ailleurs au travail pendant toute cette heure. Mais pour quelles raisons, me demanderez-vous, les avait-on filmés ainsi du matin au soir ? Eh bien c'était, comme on dirait aujourd'hui, un concept, entre guillemets, une sorte de programme de télé-réalité avant l'heure. Oui, les Beatles étaient censés répéter de nouvelles chansons en vue d'un concert-événement qui aurait été leur premier depuis 2 ans et demi. Alors absolument rien n'était encore décidé au moment où ils répétaient. Ni lieu, ni date, ni décor, rien. Tout ce qu'ils savaient, tout ce sur quoi les uns et les autres étaient d'accord, c'est qu'il fallait que ce soit spectaculaire et inattendu. Mais de quelle façon, on n'en savait strictement rien, on tâtonnait. L'idée, c'était déjà de tourner une sorte de court documentaire promotionnel pour montrer les coulisses et les répétitions de l'événement à venir qui restait à définir. Alors dans cette perspective, les Beatles ont accepté un truc absolument bizarre. S'installer tous les jours, dès 10h du matin, c'était la règle, dans un studio de cinéma, un lieu extrêmement inhospitalier, pas du tout prévu pour qu'on y fasse de la musique. Et de se faire filmer sans interruption, à tout moment, avec la lumière des projecteurs dans la gueule. Y compris quand ils mangent, quand ils s'ennuient, quand ils font les cons, comme les gamins qui sont encore, faut pas oublier qu'en 69, le plus âgé, Ringo Starr, n'a pas encore 30 ans. En tout cas, la première révélation qu'a pu avoir Peter Jackson est de taille. Oui, on a toujours dit et entendu dire que ces séances avaient été un cauchemar pour le groupe, que la présence et les interventions intempestives de Yoko Ono avaient créé entre eux un insupportable climat de tension, qu'ils étaient tous à couteau tiré et que le groupe à l'agonie se décomposait. Eh bien, c'est complètement faux. Oui, alors évidemment, il y a de l'agacement, il y a quelques engueulades, comme ça peut survenir entre des potes qui travaillent ensemble. De vraies tensions apparaissent, liées à la gestion des affaires du groupe, ça c'est indiscutable. Mais en réalité, et c'est ce que Jackson souligne, les Beatles continuent à s'amuser, à jouer comme des enfants, à très bien s'entendre et à lancer des idées délirantes. Il est par exemple question d'embarquer tout le monde dans un bateau de croisière en compagnie d'un public sélectionné et de donner carrément un concert en Afrique du Nord, sur la côte libyenne, dans les ruines d'un amphithéâtre romain pas loin de la frontière tunisienne. Il est aussi question de jouer devant des chaises vides, ça c'est un peu les concepts abstraits comme ça de Yoko Ono, ou encore dans un musée devant des tableaux, de faire venir des spectateurs en costume, habillés comme des rois et comme des reines, encore une suggestion de Yoko, ou alors de jouer, ça c'est Paul ou George, je sais plus qui imagine ça, depuis l'intérieur d'un hélicoptère avec des haut-parleurs surpuissants. De jouer à poil aussi, il l'envisage à moitié sérieusement. Enfin, le délire est total. Et le plus intéressant, c'est sans doute d'assister c'est ce dont on se rend compte quand on voit ces images et qu'on entend les commentaires, d'assister à la métamorphose de George Harrison qui s'affranchit de la tutelle de ses deux grands frères, Lennon et McCartney, et s'affirme comme un compositeur de chansons de premier plan. Un matin, il arrive tout content et il dit « Voilà, j'ai trouvé un super rock'n'roll au piano hier soir » et il le joue « Old Brown Shoe ».
I want a love that's right, but right is only half of what's wrong. I want a short-haired girl, sometimes worth it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. You pick me up from worse and try to drag me down. When I see your smile replacing every thoughtless frown, got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, I'm telling you. If I grow up, I'll be a singer, wearing rings on every finger, not worrying what they or you say. I'll live and love and maybe someday, who knows, baby, you may comfort me. I may appear to be imperfect, but my love is something you can't reject. Changing faster than the weather. If you and me should get together, who knows, baby, you may comfort me. I want that love of yours to miss. That love is something I'd take an early start, making sure that I'm not late. Sweet top lip, I'm in the queue. Baby, I'm in love with you. So glad you came here, won't be the same, now I'm telling you. Well, I'm so glad you came here, won't be the same now when I'm with you.
Go Trip sur France Inter.
lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel blue. I'm living every moment, girl, for you.
Chanson signée et interprétée par George Harrison avec les Beatles dans une version brute. Oui, Old Brown Shoe, I Me Mine et For You Blue. Dans des versions très brutes, on pourrait dire très pures, qu'on peut découvrir dans le coffret Let It Be de 4 CD apparaître dans une dizaine de jours. Et voilà, ça permet de découvrir d'excellentes versions de travail, de chansons découvertes initialement dans l'album Let It Be, paru en 70 après la mort des Beatles. Alors je vous parlais de rebondissements rocambolesques, oui, parce que, indépendamment de ces 60 heures retrouvées de films montrant le groupe au travail, on a pu mettre la main, il n'y a pas si longtemps, sur un document inestimable. 150 heures de conversations enregistrées en janvier 1969 entre les Beatles entre eux, et puis les Beatles entre leurs collaborateurs, leurs collaborantes entre eux, pardon. Enfin, ça marche dans tous les sens. En 71, un employé des studios Apple avait volé ces enregistrements qui avaient donc été réalisés au studio de cinéma de Twickenham grâce à enregistrés grâce à du matériel professionnel. C'était des bandes d'excellente qualité et elles ont été achetées clandestinement par une bande de Néerlandais qui comptait sans doute en tirer profit, d'ailleurs sans doute l'avait-il déjà fait. C'était sans compter sur la vigilance des limiers d'Interpol qui en 2003 ont organisé un raid dans un entrepôt d'Amsterdam. Et c'est comme ça qu'on a pu tout récupérer et le contenu a fini par filtrer progressivement. Alors on connaissait seulement une partie du contenu de ces bandes. On savait que notamment George Harrison ne voulait plus entendre parler de concerts en public, qu'il ne supportait plus les atermoiements de ses camarades et qu'il avait décidé même un soir de claquer la porte et de quitter le groupe. Alors on sait évidemment qu'il est revenu, mais ce qu'on ne savait pas, et ça on l'apprend dans la retranscription des conversations, c'est que les trois Beatles restants ont entre-temps tout envisagé. Continuer à trois. À ce moment-là, d'ailleurs, Ringo a dit « Ouais, mais alors, si on continue à trois, il faudra jouer plus fort. Bon. » Ou aussi, suggestion de Lennon, il pensait demander à Eric Clapton de venir se joindre à eux. On rêve évidemment à ce que cette combinaison aurait donné. Alors, le journaliste anglais John Harris, chargé d'écouter l'intégralité de ces bandes, en a fait une sélection et un montage nerveux en vue d'un livre. Alors, le résultat est divisé en un prologue, trois actes et un épilogue. C'est un peu comme une pièce de théâtre qu'on lit avec voilà les personnages qui sortent, qui apparaissent, il y a des disputes, tout ça. Et ça fait donc l'objet d'une publication, un beau livre qui s'appelle Get Back par les Beatles, accompagné de plein de photos inédites, très belles. Beaucoup d'ailleurs sont signées par Linda McCartney. C'est un livre qui va paraître dans une dizaine de jours en version française. Alors j'aurais de la peine à en dire du mal et je serais malhonnête si je prétendais être neutre dans cette affaire, puisque c'est à moi que les éditions Segers ont confié le privilège, évidemment s'en est un, de traduire ces conversations en français. Je peux vous dire que je me suis arraché le peu de cheveux qui me reste, parce que rendre le rythme des échanges, les nuances, les blagues, l'imitation de divers accents à laquelle se livrent quatre gamins de Liverpool dans les années, fin des années 60, c'était ce que l'auteur Christian Rochefort avait décrit en 1965 comme, je cite, une tentative désespérée de traduction. Oui, parce que c'est elle qui avait traduit le recueil de textes loufoques de John Lennon, c'était paru chez Robert Laffont, qui s'appelait In His Own Right. Alors elle avait trouvé un truc génial pour traduire en français, pour rendre ce jeu de mots intraduisible entre right, écrire, et right comme droit, par en flagrant délit. Oui, c'était malin. Alors il y a une dernière chose à souligner encore, mais enfin ça je voulais vous faire entendre quelque chose de que peut-être hormis les spécialistes et les grands connaisseurs des Beatles, le grand public ne connaît sans doute pas. Il y a 18 ans, en 2003, Paul McCartney a pu prendre sa vengeance contre Phil Spector. Alors je rappelle les faits. En 70, à la suggestion de l'homme d'affaires Alan Klein et de John Lennon, c'est le légendaire Spector qui s'était chargé de sauver l'album abandonné par les Beatles. Et il avait pris, Spector, de sacrées libertés. Il avait ajouté de l'écho partout, il avait accéléré la vitesse de défilement de la chanson Across the Universe, et il avait ajouté des violons et des chœurs wagnériens sur The Long and Winding Road, ce qui avait mis Paul McCartney hors de lui. En 2003, McCartney a enfin eu le feu vert pour proposer sa propre version de l'album Let It Be, qu'il a appelé Let It Be Naked. Voilà. Et sa version, dépouillée de tout ornement inutile, rend justice à la fraîcheur juvénile qu'avaient retrouvée en 69 les Beatles. On a entendu tout à l'heure une version de I've Got a Feeling qui est bien supérieure à celle de Spector. Et une deuxième preuve, c'est cette version de Two of Us.
Yeah.
Very Good Trip sur France Inter.
It sounds like Dave Clark. It's like being Tommy in here.
One, two, three, four.
Titre court signé par les Beatles, Polythene Pam et She Came In Through the Bathroom Window, dans une version primitive et encore nue. Alors tout le monde ou presque connaît ces deux chansons, on peut les entendre dans la longue suite qui compose la seconde phase de l'album Abbey Road. Alors il y a un mythe auquel j'ai pu moi-même souscrire, c'est le suivant. Les Beatles s'étaient disputés et s'étaient pratiquement désintégrés au début de l'année 69 lors de l'enregistrement d'un album qui n'avait finalement jamais vu le jour et qui a été sauvé de façon posthume, entre guillemets, par Phil Spector, secondé par l'homme d'affaires Alan Klein. Eh bien, voilà, on disait aussi quoi d'autre, qu'ils avaient été traumatisés par ce ratage, qu'ils savaient que la fin de leur aventure était proche. Alors, ils avaient mis de côté, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, leur désaccord pour créer l'album Abbey Road, qui avait été enregistré dans un climat tout à fait autre, une ambiance idyllique, parce que ces quatre-là savaient que ce serait leur chant d'adieu. Eh bien, là encore, c'est en grande partie totalement faux. Parce qu'en réalité, une grande partie de l'album Abbey Road, le tiers, la moitié, les deux tiers des chansons, difficile à dire, ont en réalité été répétées et jouées durant ces séances prétendument calamiteuses pour l'album inachevé de l'hiver 1969. La réalité, c'est qu'après des débuts difficiles dans un décor inhospitalier, les studios donc de cinéma de Twickenham, en fait, l'alchimie a parfaitement fonctionné entre eux quand ils sont allés jouer dans les studios de Apple. D'ailleurs, c'est pas n'importe qui l'a remarqué, c'est leur directeur musical de toujours, George Martin, qui a repris l'affaire en main à ce moment-là. À un moment, il peut pas s'empêcher de dire son admiration à John et à Paul. Il leur dit « Mais vous deux, vous êtes tellement connectés, on dirait qu'il y a comme un fluide magique entre vous deux, ça se passe, vous vous regardez, vous vous comprenez, c'est magique. » Et d'ailleurs, c'est incroyable à quel point on sent cette connexion entre Paul et John, alors que prétendument, ils se seraient éloignés, fâchés, etc. Pas du tout. Paul dit un moment à John qu'il a rêvé de lui. D'ailleurs, il plaisante, c'est drôle. D'ailleurs, il faudrait analyser ça autre chose. Il y a quand même deux chansons qui sont sur l'ambiguïté sexuelle. Polly Fenton et Get Back aussi, qui est l'histoire d'un travesti, Loretta. Enfin, c'est très étrange. Et il plaisante d'ailleurs plus d'une fois l'un et l'autre sur le fait qu'il pourrait être un couple homosexuel. La vérité, c'est qu'à un moment donné, Paul réunit les autres et leur dit en gros, écoutez, ça se passe tellement bien, il faut qu'on garde cette énergie. On a plein de bonnes chansons, on fait une petite coupure et vous allez voir, on va se retrouver et on pourra faire un autre album très très vite. Et c'est comme ça qu'en fait Abbey Road est né grâce à la dynamique née au cours des séances de l'album qui est devenu Let It Be mais qui devait s'appeler Get Back. J'espère que vous suivez. Séance qui prétendument s'était très mal passée. Alors on apprend plein de choses surprenantes dans ce livre qui s'appelle donc simplement Get Back, notamment sur les circonstances exactes du fameux concert sur le toit, entre guillemets. En fait, jusqu'au dernier moment, les Beatles discutent entre eux avec le cinéaste Michael Lindsay-Hogg, avec leur assistant Mal Evans, avec le directeur musical George Martin, et puis aussi avec l'ingénieur du son Glyn Johns. Bref, tout le monde s'en mêle, tout le monde a un avis. Et Paul, lui, c'est vraiment lui qui tient la boutique. Il veut coûte que coûte jouer en public, sur une scène, dans un square, dans la rue, n'importe où. Et comme je vous disais, il envisage même de partir en croisière pour la Libye et de donner un concert là-bas. Alors John, lui, il est très coopératif. Il est partant pour les aventures les plus extravagantes. Il faut dire qu'il est un peu beaucoup, parfois, défoncé. On a l'impression qu'il n'est pas non plus très, très impliqué. Il est un peu, vous savez, comme un enfant. Il est toujours dans l'instant, il est d'accord avec tout. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, donc, il n'y avait aucune tension entre John et lui. Ringo, lui, parfois sceptique, néanmoins, il est toujours de bonne composition et prêt, il est prêt à jouer le jeu à son image. Le problème, au fond, c'est George. George revient des États-Unis, il a rencontré Bob Dylan, il a rencontré les musiciens de The Band, il s'intéresse à des musiques vraiment traditionnelles américaines, c'est pas du tout le même trip, si j'ose dire. Il est dans une dynamique irrésistible, il a composé plein de chansons qui donneront son chef-d'œuvre, l'album All Things Must Pass, d'ailleurs on y reviendra sans doute mercredi, et il est en train de monter, et c'est lui qui, on l'a d'ailleurs oublié, qui sera le premier ancien musicien des Beatles à obtenir un immense succès en solo avant John Lennon et avant Paul McCartney. Et puis George, il est dans cette logique, voilà, de lui vraiment penser à ce qu'il va faire de sa musique, et il dit non à pratiquement tout. Et John et Paul, c'est un peu comme des grands frères qui veulent continuer à lui apprendre la vie, et lui, George, il se rebelle. La croisière, le square, le concert dans le musée, il n'en veut pas. Et à un moment, c'est assez curieux, il s'emballe pour une idée folle et futuriste qui lui passe par la tête, mais c'est son idée à lui, une sorte de concert collaboratif avec d'autres musiciens, d'autres groupes, reliés par un circuit de télévision, une idée qui anticipe étrangement l'arrivée de l'Internet. Alors, l'idée de monter sur le toit, au fond, c'est un peu un accident. Parce que le réalisateur, Lindsay Hogg, est complètement désespéré, aucune solution ne se profile, il lui manque une scène qui soit le bouquet final du programme télévisé prévu, parce qu'évidemment, on a été obligé de réduire la voilure. Paul est très très déçu, il dit « Bah quoi, on va faire un album de plus, ça n'a aucun intérêt, moi je voulais qu'on fasse un truc dingue, personne ne va en parler, voilà, le concert est tombé à l'eau. » Et à ce moment-là, quelqu'un suggère de faire une répétition générale, un filage sur le toit, voilà, histoire de changer de décor. George, évidemment, dit non, il n'a pas envie, personne ne sait trop, on installe le matériel au cas où, et la veille encore, ils sont en train de discuter, dire ils veulent pas y aller, George dit moi j'y vais pas, rien n'est sûr. Et puis au dernier moment, alors qu'il tournicote devant l'escalier qui mène au toit, John, sur un coup de tête, s'élance et dit allez, on y va. Et ils y vont, et c'est comme ça que l'histoire s'est écrite.
She does. Ooh, she does. Yes, she does. love me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Blue jay go. Blue she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Blue she done me. She done me good.
Two, three, one, two, three.
Les Beatles au travail dans une version débridée de I Want You, un des sommets de l'album Abbey Road. Ça, on l'avait découvert il y a 2 ans. Voilà, bah c'est tout pour ce soir. Merci à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission, Ludovic Asso à la technique, Romain Couturier à la discothèque de Radio France et Zora Ben Smiley pour le site internet. Alors demain soir, pas d'émission et dès 20h, bah vous pourrez écouter ou venir assister, si vous êtes près de Paris ou à Paris, à un événement exceptionnel qui sera diffusé en direct depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, réunissant sur un même plateau des artistes interprètes afghanes et françaises dans un dialogue solidaire, musical et joyeux. Réservation maison de la radio et de la musique.fr.